sûr, mais j'ai enregistré pour le mettre sur un site. C'est surtout pour les pays, les personnes qui sont opprimées dans certains pays, qui sont persécutées, que je le fais. Hein. Ici, quelqu'un peut toujours chercher une église, la trouver. Mais il y a des pays, je vois, il y a des gens qui vont sur le site, qui sont dans les pays où ils sont seuls, hein, ou presque seuls. Donc, Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, ici, c'est une parole de Jésus vers une église qui n'est pas puissante. Cette église aime la parole de Dieu et elle évangélise les Juifs. Elle apprend la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité pour les péchés, aux Juifs. Et c'est une église qui a une porte ouverte, parce que Jésus lui a ouvert une porte par sa parole. Et c'est une église qui va résister au moment où, dans le monde, juste avant le retour de Jésus, il y a de grandes épreuves sur le monde. Verset 10, « Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce temps-là, des épreuves sur le monde s'approchent à grands pas et c'est la seule église qui sera gardée. Les autres vont s'éteindre, disparaître sous la pression de Satan. Elles vont tomber dans des fausses doctrines, des hérésies. Ils vont même trahir le nom du Seigneur Jésus. Quand le pasteur Wombrandt en Roumanie a été en prison pendant plus de 30 ans, sous le régime communiste, il a dit que ceux qui l'avaient le plus fait souffrir, c'étaient les chrétiens. Les chrétiens de Roumanie qui l'avaient trahi. Donc il y a des chrétiens fidèles à la parole de Dieu, dans le Saint-Esprit, il y a des chrétiens de nom, qui sont persuadés d'être chrétiens, qui ne le sont pas. Cela fait souffrir les vrais chrétiens en Roumanie. Donc dans Galates, si vous voulez bien aller dans Galates, chapitre 4, versets 28 et 29. Galates, chapitre 4, versets 28 et 29.
Page 888.
Galates, chapitre 4, versets 28 et 29. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair... Donc, qui est humain, qui n'est pas né de nouveau. Hein? Persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Ok? Ça veut dire que dans la réalité de la chrétienté, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui persécutent d'autres chrétiens. Par leur hostilité. Parce que certains chrétiens sont spirituels, sont réellement nés de nouveau et vivent en Christ. Et d'autres vivent selon le monde, amis du monde, amis de la chair, dans l'orgueil de la vie. Dans la première épître de Jean, Thank you. chapitre 2. Verset 14. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit, père, donc les chrétiens adultes affermis dans la foi, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc à partir du moment où Jésus a prêché, a été baptisé dans le Jourdain, c'est ça, dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Donc les chrétiens convertis déjà d'un certain temps, et encore en train de faire leur expérience, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc voilà, le chrétien né de la chair. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, le chrétien né de l'Esprit, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Alors, le temps de la chrétienté, depuis la mort et la résurrection de Jésus, jusqu'à son retour, ce temps de la chrétienté s'appelle eschaton, c'est-à-dire les derniers temps, en grec. Eschaton, c'est les derniers temps. Mort et résurrection de Jésus, jusqu'à son retour, c'est ça les derniers temps. Contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent. Ils sont complètement dans une mauvaise connaissance de la Bible. Alors, regardons au verset 18. Petits enfants, donc pour les tout jeunes chrétiens, ça peut être quelqu'un de 60 ans, de 50 ans, qui vient d'être chrétien, de 6 mois, 1 an, 3 mois, 2 ans. Ça, c'est petits enfants. Hein. Petits enfants, c'est la dernière heure, donc eschaton. Vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il insiste sur la nature du temps de l'Église, c'est le temps où il y a des antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Donc, ils sont sortis du milieu de nous, il y a donc du blé et de l'ivraie dans le champ, des brebis et des boucs dans le troupeau. C'est la réalité de la chrétienté pendant tous les siècles, à partir de la fondation de l'Église jusqu'au retour de Jésus. Retournons à Apocalypse chapitre 3, verset 8. Nous avons affaire ici à une Église spirituelle, au moins pour les trois quarts, ou 90%. Une église spirituelle qui aime la parole, qui la met en pratique et que Jésus va garder au moment de l'épreuve sur le monde. Et comment va-t-il la garder? En enlevant l'église. L'enlèvement de l'église, c'est la seule façon de garder l'église. Quand Dieu va appeler le Saint-Esprit à quitter la terre, ceux qui sont invités du Saint-Esprit instantanément s'en vont. Ceux qui sont habités du Saint-Esprit, instantanément, puisque Dieu reprend le Saint-Esprit qui est sur terre, le temps de la chrétienté est fini, il retire les chrétiens spirituels. Et c'est comme ça qu'ils sont gardés la grande épreuve pendant 7 années que Satan va faire subir à la terre à tous ceux qui portent un nom de chrétien ou pas. Ça, c'est une caractéristique de l'Église spirituelle. Il y a une deuxième caractéristique, c'est qu'elle amène le monde juif à la foi chrétienne. Cette Église amène les juifs à la vie, à la foi chrétienne. Donc, elle est convaincue qu'un juif doit connaître Jésus, qui a accompli les Écritures, qui est mort pour les péchés, qui est ressuscité et qui va visiter Israël. C'est une église qui est convaincue de cela. Donc au chapitre 3, verset 9, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc Dieu va révéler par ces chrétiens-là que Jésus a aimé des hommes de toutes les nations et aussi Israël, et qu'il a donné sa vie pour eux sur la croix, et qu'il est ressuscité pour eux. Vous avez vu ? Alors, nous allons dans Romains, au chapitre 11. Romains chapitre 11, versets 4 et 5. Romains 11, versets 4 et 5. Mais quelle réponse Dieu fait-il donc à Élie, hein? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, c'est eschaton, hein, ou aion, il y a deux mots en grec, dans le temps présent, c'est le temps de l'Église, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Dieu a choisi, parmi les Juifs, des gens qui vont le connaître, qui vont connaître Jésus. Verset 12, si leur chute, c'est-à-dire leur rejet de Jésus, a été la richesse du monde, donc que le monde a connu l'Évangile, Jésus, si leur chute a été la richesse du monde, leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc Paul dit que les Juifs se convertiront. Verset 25. Chapitre 11, verset 25. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, donc que les chrétiens ne soient pas antisémites, orgueilleux sur les juifs. Hein. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Versets 28 et 29, en ce qui concerne l'Évangile, donc Jésus, mort et ressuscité, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, avec Abraham, Isaac et Jacob, ils sont aimés à cause de leur Père. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il les a appelés, il les sauvera. J'ai eu la joie en 2008 de voir un endroit où des milliers de juifs vont chercher une Bible au Nouveau Testament. 100 à 110 000 juifs tous les ans vont chercher une Bible avec un Nouveau Testament depuis 2005.
En Israël.
Et actuellement, il y a des milliers de conversions chez les juifs en Israël. Pas quelques dizaines, des milliers régulièrement se convertissent. Moi j'ai dormi, j'ai été vivre un peu là-bas à Nazareth avec des juifs messianiques convertis à Jésus. Donc effectivement, il y a une église qui n'est pas antisémite, il y a une église qui est missionnaire et qui a amené déjà beaucoup de juifs à la foi en Jésus. Effectivement, c'est accompli. Si ça s'est accompli, donc au moment de l'épreuve, où réellement l'épreuve vient sur le monde, cette église va être gardée et enlevée. Donc la porte est ouverte pour ces chrétiens-là. Pourquoi ? Est-ce que la porte serait fermée pour d'autres ? Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, les caractéristiques extérieures pour Dieu ne comptent pas. L'apparence d'une église ne compte pas. Je dirais, les actions d'une église ne la sauvent pas. Ce qui fait le test de vérité pour une église, c'est qu'elle vit dans la volonté du Père des cieux. Qu'elle garde sa parole avec persévérance. Et qu'elle aime le peuple juif et qu'elle l'amène à la conversion. Avant l'enlèvement de l'Église. Jean chapitre 5, verset 23. Jean chapitre 5, verset 23 et suivant. Je commence au verset 22, excusez-moi. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Comment peut-on honorer le Fils Jésus? Quand Jésus, qui meurt sur la croix pour mes péchés, et ressuscite pour conduire ma vie, je ne peux faire qu'une chose, l'honorer, c'est vivre comme il me le demande. Dans sa présence, dans la confiance dans ses paroles, comment je peux honorer le Fils? Eh bien, en parlant du Fils aux autres, en leur apprenant ce que le Fils de Dieu a fait pour eux, et comment ils doivent adopter une nouvelle vie. Nous ne sommes jamais chrétiens pour nous-mêmes, comme une personne religieuse. Ça, c'est un chrétien selon la chair. Nous devons être un chrétien selon le Fils, unis au Fils. En communion avec le Fils. On n'est pas un chrétien en communion avec soi-même, avec des traditions, des habitudes, avec des images qu'on s'est fait soi-même de sa foi. On est en communion avec la parole de Jésus, avec ce que Jésus me dit, à mon cœur, à mon esprit. Je suis en communion avec Jésus quand je le mets en pratique. Au verset 24, Amin, Amin. C'est-à-dire, c'est un oracle, une révélation. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, donc qui la met en pratique, et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc à Dieu le Père, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc, effectivement, dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 8, la porte est ouverte pour cette église. La porte est ouverte. Si elle est ouverte, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Alors, nous allons lire Luc chapitre 23. Il s'agit du bandit qui a injurié Jésus avec son copain depuis 9h du matin jusqu'à midi. Mais ce bandit, de midi à 3h, il n'insulte plus. Il a changé d'attitude. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus en disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons sans commérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà ce qu'il y a derrière la porte. Et le premier à rentrer dans le paradis, c'est ce bandit. Dès que Jésus meurt, la porte est ouverte. Et cet homme va mourir quelques minutes après. Mais alors vous me direz, Abraham, Isaac, Rebecca, Esther, David, tous ceux-là qui sont tout près d'Abraham, dans ces jours des morts, ils ne sont pas encore au paradis, eux. En fait, dans l'épître de Pierre, Pierre explique que Jésus, après avoir été ressuscité, est descendu aux enfers et il a emmené des captifs vers Dieu. Donc, le bandit est rentré, quand Jésus ressuscité dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, il va chercher Abraham, Isaac, David, Rebecca et tous les autres qui sont dans le séjour des morts, qui l'attendaient, il va leur donner le Saint-Esprit et les emmène auprès du Père. C'est en cela que Jean, dans l'Apocalypse, il voit alentour du trône les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont des personnes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament autour de Dieu, sauvées par le sang de Jésus. Alors, dans Luc chapitre 23, au verset 44, il était déjà environ la 6e heure, donc midi. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 9e heure, 15 heures. Le ciel s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Dans le temple de Jérusalem, ce voile il fait 11 mètres sur 9 mètres et il fait 10 cm d'épais. 9 sur 11, 10 cm d'épais. Et vous vous rappelez, ça tombe bien, vous vous rappelez des psaumes 27 que vous a commenté Michael. Je désire être dans ton tabernacle. Je désire être dans ton tabernacle. Ça veut dire quoi? Le tabernacle, tabernaculum en latin, c'est la tente. Je désire être dans ta tente. Là où il y avait le voile, là où il y a l'obscurité, là où tu es. Tu es un Dieu dans l'obscurité qui te cache. Et Isaïe dit, mais c'est parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est pour ça qu'on ne le voit pas.
Et David ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle.
Chapitre 59, verset 1 à 3. C'est le péché qui crée une séparation entre Dieu et nous. Et David ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle. Mais il a le désir de voir la face. Et Dieu lui dit, cherche ma face. Donc Dieu veut la rencontre. Dieu veut la destruction du voile, du temple. Et Dieu veut que le tabernacle soit accessible. Eh bien, ça a été rendu possible par le sacrifice de Jésus. Verset 45. le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il n'a pas dit « mon âme hein ». Il n'a pas dit « mon âme », si vous voulez savoir pourquoi. C'est pas le moment aujourd'hui, mais je veux bien l'expliquer. Quand Jésus a été dans le tombeau pendant 3 jours, calendrier juif, corps et âme étaient là. Il remet son esprit. C'est-à-dire que tout le corps ne vit plus, ni le psychisme, ni le cerveau, ni rien. Mais le Christ est là, dans l'attente de la résurrection. Vous lisez le psaume 16, et vous comprendrez que Jésus attendait l'autorisation de sortir du tombeau. Psaume 91, par les anges.
C'est quoi l'âme ?
L'âme, c'est la personne. Quand tu pourris dans le cimetière, tu es avec ta personne auprès de Dieu, si tu as la foi en Christ. Si tu as fait la volonté de Dieu. Ta personne est auprès de Christ. À la résurrection, ta personne spirituelle reprend son corps. Alors, vous voyez bien que nous voyons ici le voile du temple se déchire et il y a un accès. Hébreux. Vous devez pouvoir expliquer ça à tout quiconque cherche Dieu aujourd'hui. C'est la base de la foi. C'est la base de ce que vous devriez méditer tous les jours, ce que je veux méditer tous les jours. C'est la base pour que quelqu'un devienne chrétien. Alors, Hébreux, chapitre 10, verset 20, 19. Ça, c'est le cœur de l'Épître aux Hébreux, ce verset-là. Hébreux, chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Vous avez vu ce que David souhaitait, désirait du fond de son cœur au psaume 27. C'est une prédication qui est prête depuis un mois et demi. Je me dis quand est-ce que je la sors. J'entends Michael qui commande le psaume, je dis bon, j'en avais 3-4 là, quand est-ce que je sors cette prédication? Quand j'ai vu qu'il parlait comme ça si bien du psaume 27, je me dis bon, on va dans ce sens-là. Ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, à la croix bien sûr, une libre entrée dans le sanctuaire, vous avez vu, pour le brigand, puis ensuite il va rechercher tous ceux, les saints de l'Ancien Testament, qui sont dans l'attente de Christ, qui vient les chercher pour les amener au Père, par la route nouvelle et vivante qu'il est inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc son corps a été martyrisé, souffert, déchiré, c'est le voile du temple qui est déchiré en même temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette chair, ce voile, c'est une route nouvelle et vivante. Verset 20. Il faut quand même peser les mots qui sont mis là. C'est une route nouvelle et vivante. Alors, comment le comprendre? Quand dans Matthieu, au chapitre 28, apparaît à tous ses disciples, sur le mont Tabor, à 500 frères, plus les 11.
Jésus apparaît.
J'ai dit quoi? Jésus apparaît. Il dit, voici, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Eh bien, c'est transcrit ici, autrement, par Apollos, qui a écrit l'Épître aux Hébreux. La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus est vivant aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire, là. Il faut décrypter les mots comme ils sont. Jésus est vivant et il est la route nouvelle. Verset 21. Puisque nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 2, la maison de Dieu, c'est nous, c'est les chrétiens. Ceux qui font sa volonté, qui vivent dans cet esprit, c'est la maison de Dieu. C'est plus les pierres du temple de Jérusalem. D'ailleurs, Dieu s'est arrangé pour qu'il n'y ait plus de pierres, il n'y ait plus de temple. Comme ça, c'est plus clair. Dans Hébreux, au chapitre 2, il est mis clairement que la maison de Dieu, c'est nous. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, hein. Pas parce qu'on est les plus beaux, les plus saints et tout ça, sûrement pas. Hein. C'est Dieu qui nous prend et qui construit sa maison. Avec des pierres vivantes, dit l'apôtre Pierre dans son épître. Il fait de nous des pierres vivantes pour construire sa maison. C'est nous, la maison. Mais le constructeur, c'est lui. Alors, puisque nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, donc la conscience du péché, la religion, les habitudes, les traditions, hein, mais surtout le péché, la culpabilité, hein, eh bien, et le corps lavé d'une eau pure, le baptême, évidemment. Mais approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la langue grecque, ces mots-là veulent dire « Je vais dépasser ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais dépasser ce qu'il y a toujours eu dans mon âme, dans mes idées. Je vais dépasser tout ça, je vais aller au-delà. » La conversion d'Abraham, quand il quitte le sud de l'Irak, c'est la même chose. Il quitte son père, sa mère, sa terre, ses traditions, il dépasse tout ça. Et c'est dans le même sens qu'il faut le comprendre. Je dépasse tout ce que je suis, je m'approche de Dieu et je ne m'arrête plus à ce que j'étais avant, à ma religion, à mes pensées. Je m'attache à la personne vivante et sainte de Jésus-Christ. Et je reçois une foi, une plénitude de la foi. La plénitude de la foi, où est-ce qu'on la trouve? Jean chapitre 1. Où est-ce qu'on trouve la plénitude de la foi? Jean chapitre 1. Au verset 9. Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière, en parlant du Christ, hein, était la véritable lumière, donc la vérité, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, donc le peuple juif. Mais ce n'est pas un prétexte pour devenir antisémite, comme tout un certain nombre de pères de l'Église, et surtout le sud de l'Europe, même le nord. À la fin de sa vie, Luther a été antisémite quand même dans beaucoup de paroles. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu non pas parce qu'on est, parce qu'on croit, on devient enfant de Dieu parce qu'on reçoit. Donc il faut dépasser ce qu'on est et le mettre de côté et accepter ce que Jésus me donne pour devenir son enfant. Mais qu'est-ce qu'il me donne pour que je puisse devenir son enfant? Eh bien, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, au verset 12. Il a donné sa dynamis, en grec dynamis, dynamite en français, hein, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit fait de moi l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit fait de moi l'enfant de Dieu. Quand je crois, verset 13, lesquels sont nés, non du sang, donc pas des parents, de la maman, du papa, ni de la volonté de la chair, par l'éducation, de l'école, de l'organisation religieuse, ni de la volonté de l'homme, quelqu'un qui m'aura obligé à avoir la foi, mais de Dieu. La naissance vient de Dieu. Donc au moment où Jésus meurt sur la croix, le voile est déchiré, si j'accepte de rentrer, en fait j'accepte de rentrer pour recevoir une nouvelle naissance. Je rentre auprès de Dieu pour recevoir une nouvelle naissance. Si je rentre auprès de Dieu pour ne pas avoir une nouvelle naissance, je suis un menteur, et dans Matthieu 7, 21, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Verset 14, la parole a été faite chair, donc Jésus a été fait chair, humain, et elle habitait parmi nous, c'est-à-dire elle a campé, il a vécu avec nous, il a marché avec nous, dans le désert, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire que quand je rentre auprès de Dieu, le voile est déchiré, j'accepte que Jésus est mort pour moi sur la croix, j'accepte de naître de nouveau, mais j'accepte de contempler Jésus. Nous avons contemplé sa gloire. J'accepte de contempler la personne de Jésus. Le chrétien n'est pas centré sur lui-même, il n'est pas narcissique, il est christocentrique, il est centré sur le Christ. Donc il n'y a pas d'évangile de la prospérité. Toute cette doctrine des miracles, si je crois en Jésus, je vais devenir riche, je vais devenir heureux, tout ce que je vais demander va s'accomplir. C'est complètement faux. C'est du faux. Ça vient du diable. Parce que ce qui nous vient de Dieu, c'est la gloire du Fils unique de Dieu. C'est la gloire de Jésus. Et c'est la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit. C'est ça la vie nouvelle. Alors, au verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons reçu, tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est ça que dans l'Épître aux Hébreux on dit, il faut dépasser notre cœur, les vérités de notre cœur. Il faut aller au-delà de nous-mêmes pour recevoir la plénitude et les grâces de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus sur le mont Tabor dit à ses disciples, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Ça, c'est le cadeau de Dieu pour l'enfant de Dieu. Verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Si je reçois Jésus dans ma vie et que j'accepte sa plénitude, sa personne, sa parole, j'apprends à connaître Dieu, mon Père. C'est le chemin qui me mène au Père. C'est pour ça que dans Jean chapitre 4, au verset 23, chapitre 4, verset 23, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu, pour adorer mon Père des cieux, il faut que j'aime absolument. du fond de mon cœur la personne de Jésus. Alors, j'ai la permission de faire un pas de plus. La porte est ouverte, j'ai la permission de continuer à faire des pas vers mon Père des cieux. Je peux être l'adorateur du Père, parce que j'ai déjà accepté la personne de Jésus. Je l'accepte entièrement dans ma vie. Je peux continuer à faire des pas au-delà du voile, au-delà de la porte, pour aller adorer mon Père. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 14, chapitre 14, verset 6, j'espère que tout ça, ça sera clair aujourd'hui. Je le répéterai peut-être encore à travers la France ou pas, mais quand Jésus dit à Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est lui qui passe par Jésus, vient au Père. Il va au Père, il peut continuer vers le Père, il le connaîtra bien. Alors, les amis, la porte est ouverte. Nous savons tous ce qu'il nous reste à faire. Que notre foi soit sincère. Qu'elle ne soit pas centrée sur nous-mêmes et sur la personne de Jésus. Et qu'on n'ait pas un cœur mauvais, c'est-à-dire qu'on s'approche de Jésus pour tout recevoir de lui. Qu'on ne donne pas une main à Jésus, puis une main encore au monde. Un pied dans le ciel et un pied dans tous les mensonges de la terre. Parce que c'est nous qui sommes perdants dans ces cas-là. Alors, dans Jean chapitre 18, verset 36, nous allons voir ce qu'est le test de la vérité. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Versets 36 à 38. Dans ce chapitre 18, Pilate est en train de demander à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Alors Jésus répond. Chapitre 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. » Donc les anges, hein. « Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Donc tu es roi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Le brigand sur la croix qui s'est converti, qui a demandé pardon pour ses péchés, à qui Jésus a dit, « Aujourd'hui, tu es dans mon paradis. » Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Le brigand est venu à la vérité en la présence de Jésus. Au moment où il était crucifié, il souffrait, il allait mourir, il est venu à la vérité. Et quand la porte est ouverte, il rentre dans le monde de la vérité. Donc, c'est aujourd'hui qu'on doit attendre la voix de Jésus. Aujourd'hui. quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc, le test que je subis tous les jours, c'est celui-là. Celui qui est de la vérité écoute ma voix. Suis-je dans la vérité? Est-ce que j'écoute la voix de Jésus? Quand une femme est enceinte, elle va à la pharmacie et elle achète des petites tigettes. Et puis, on les trempe dans l'urine. Ah, je suis enceinte. C'est le test pour savoir si je suis enceinte. Ok? Quand je passe tous mes examens à l'école, tout est fini, j'attends 2-3 jours, 4 jours, et puis je vais à l'école, je regarde les tableaux ou je vais sur Internet. Ah, j'ai réussi. Mon test, c'est ce jour-là. Ça fait 6 ans que je suis à l'école, est-ce que j'ai réussi? Hein, c'est toi qui t'attends, frère. Donc, mon test, il ne dépend pas de moi. Pour la femme enceinte, le test, il dépend de la petite tigette qui a été achetée à la pharmacie. Elle le trempe dans l'urine, elle voit. Le test pour moi, aujourd'hui, c'est ce que Jésus me dit. Ce que Jésus me dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors je vous invite à terminer le culte en priant. Est-ce que j'entends ta voix, Seigneur Jésus? Est-ce que j'entends ta voix? Est-ce que je l'aime, je l'apprécie, je le mets en pratique? Suis-je vraiment dans la vérité, Seigneur? Es-tu mon roi vraiment, Seigneur? Pilate a répondu, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous savez qu'il y a des chrétiens aujourd'hui que c'est comme ça? Ils font ce qu'ils veulent de Jésus. Ils font ce qu'ils veulent de la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent de la croix de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Mais est-ce que c'est cela que Dieu attend de nous? Ou nous sommes des Pilate, ou nous sommes des vrais enfants de Dieu. Celui qui écoute ma voix est dans la vérité. Amen. Si quelqu'un veut prier ou chanter, même dans